Bonsoir, c'est l'heure du journal sur RFI. Il est 21h à Washington, 4h du matin à Damas.
Théo Renaudon.
À la une de l'actualité, c'est une guerre seule contre tous, dont les armes sont les taxes. Donald Trump annonce des nouvelles mesures douanières contre l'essentiel des pays du monde. Un plancher à 10% plus un autre chiffre selon chaque pays. La Chine est particulièrement visée, 34%, l'UE est à 20%. Les pays africains ne sont pas épargnés. 4 morts et des dizaines de blessés dans un raid israélien en Syrie sur des bases militaires. Damas condamne et en appelle au droit international. Et puis enfin, un important site internet pédopornographique démantelé par Interpol, la police internationale. 1,8 million de pédophiles le fréquentaient. Depuis des décennies, notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines des alliés comme des ennemis. C'est par ces mots que Donald Trump lance concrètement sa guerre économique. Le président américain a annoncé en direct à la télévision les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis à l'essentiel des pays du monde. Debout devant un tableau chiffré face à un public, il a fait la liste des nouveaux droits de douane pour une grande partie du monde, entre autres 21% pour la Côte d'Ivoire, 30% pour l'Algérie, 11% pour le Cameroun et la RDC, 10% pour le Sénégal, 34% de taxes sur les produits chinois, 20% donc pour l'Union européenne. La guerre commerciale est donc désormais réelle et l'impact de ces taxes sur les consommateurs devrait être énorme, mais aussi sur les entreprises, notamment celles qui exportent beaucoup aux États-Unis. Le Japon a déjà annoncé créer un millier de guichets de consultation pour aider ces entreprises à y faire face. En France aussi, les autorités ont mis en place un dispositif d'information aux entreprises sur les éventuelles conséquences et cela pourrait commencer par des pertes d'emplois, estime l'économiste Pascal de Lima, interrogé par Agnieszka Kumor.
Puisqu'il y a baisse des exportations, donc il y a baisse de la production des entreprises, c'est vrai pour l'Europe comme pour les pays les plus touchés en Asie, mais donc des pertes d'emplois et des pertes de pouvoir d'achat via un ralentissement économique. En Asie, là, ce qui risque de se passer, c'est des ruptures de contrats avec des clients américains, notamment dans les semi-conducteurs, l'électronique, le textile et une reconfiguration des forces de transition vers la production, en particulier vers l'Inde. Et donc l'Asie pourrait se tourner vers l'Inde et moins vers les États-Unis. Là, c'est plus pour les entreprises. Pour les consommateurs, c'est une hausse des prix. Et donc moins d'automobiles américaines, voilà, de vêtements, de logiciels et des possibilités aussi de pénurie pour les consommateurs.
Voilà, le dollar a instantanément perdu 1% de sa valeur. L'Australie, première à réagir, qualifiant ces nouvelles taxes d'injustifiées, suivie de l'Italie qui parle de mauvaises mesures tout en espérant un accord pour éviter une guerre commerciale. Le Royaume-Uni, taxé à 10%, lui reste calme et dit ne pas vouloir imposer de ne pas vouloir riposter tout de suite. Le ministre américain des Finances conseille lui à l'instant à tous les pays du monde de ne pas riposter à ses droits de douane. En Afrique du Sud, une délégation d'officiels rentre optimiste d'une visite avec plusieurs représentants américains à Washington. Une rencontre très attendue et annoncée depuis plusieurs semaines dans un contexte de tension entre les deux partenaires commerciaux. L'objectif: continuer le dialogue entamé par l'ambassadeur expulsé des États-Unis. Un autre devrait reprendre l'ambassade bientôt. Il a donc été question d'expliquer la politique intérieure sud-africaine, notamment sur la récente loi d'expropriation, une politique intérieure dans le viseur de Donald Trump, qui estime que l'Afrique du Sud discrimine les personnes blanches et qui de ce fait a multiplié les attaques et les coupes d'aide envers l'Afrique du Sud depuis son retour au pouvoir. Valentin Hugues.
L'Afrique du Sud ne répond que par le dialogue et la diplomatie, et c'était tout l'enjeu de cette visite, ponctuée de rencontres avec plusieurs hauts fonctionnaires américains comme le responsable des affaires africaines, Crispin Fieri, porte-parole du département des relations internationales.
Nous pensons que ces dialogues aideront l'administration actuelle à mieux comprendre la position de l'Afrique du Sud sur des questions essentielles, en optant pour une perspective plus nuancée.
Notamment sur la question de la redistribution des terres et de l'expropriation en Afrique du Sud, qualifiée par la Maison-Blanche de discrimination envers les fermiers fermiers blancs. Clayson Moniela faisait partie du voyage. C'est le responsable de la diplomatie publique au Bureau des Affaires étrangères.
Nous les avons trouvés très réceptifs. Il y avait une écoute attentive et je crois qu'ils ont bien intégré nos clarifications sur le fait que nous ne comptons pas confisquer des terres à qui que ce soit, par exemple. Et c'était important car ces hauts fonctionnaires ont de l'influence auprès du chef de l'État lui-même.
Le nouvel ambassadeur sud-africain aura donc la lourde tâche de poursuivre ses échanges avec la Maison Blanche. Mais pour l'instant, Pretoria n'a pas encore annoncé son nom. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Israël bombarde en Syrie. Des frappes ont visé un centre de recherche militaire à Damas et l'aéroport militaire de la ville d'Hama. Bilan, 4 morts et des dizaines de blessés. La diplomatie syrienne a condamné et dénoncé une flagrante violation de la souveraineté de la Syrie et du droit international. Tel Aviv affirme que ce nouveau gouvernement syrien est terroriste et qu'il menace Israël. Pourtant, les nouvelles autorités n'ont jamais ciblé le territoire israélien. Israël morcelle aussi la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a annoncé ce mercredi avoir donné l'ordre à son armée de saisir des zones du territoire palestinien pour forcer le Hamas à rendre les derniers otages. Dans les airs, les avions israéliens ont poursuivi leur bombardement. Des civils, dont des enfants, ont été tués selon les secours. Il reste 58 otages à Gaza, dont 34 sont morts selon l'armée israélienne. Ce mercredi, des familles d'otages se sont émues de ces nouvelles opérations qui menacent, selon eux, directement le retour des otages morts ou vivants. Écoutez Oudi Goren, le cousin d'une Israélienne tuée par le Hamas, dont le corps est à Gaza.
Beaucoup de gens redoutent que la question des otages ne soit plus la priorité du gouvernement, et j'aimerais que ce soit la priorité numéro un. Depuis le début, on nous répète que les offensives et la libération d'otages sont deux buts aussi importants l'un que l'autre. Mais ce qu'on voit, nous, c'est que même si des Israéliens ont été libérés, les combats continuent, et un an et demi après le 7 octobre, ils sont toujours 59 à être retenus à Gaza, vivants ou morts. Ce que j'aimerais voir maintenant, ce sont tous les otages libérés, la guerre terminée, les souffrances des deux côtés terminées elles aussi. Et cela n'est possible qu'à deux conditions, que le Hamas les libère et que cela ne compromette pas notre sécurité et la construction d'un monde meilleur. Mais comme ça semble difficile, j'attends surtout qu'Israël mette tout en œuvre pour ramener les otages le plus vite possible.
Tripoli met à la porte 10 ONG humanitaires occidentales, parmi elles Médecins sans frontières, Terre des Hommes ou encore le Conseil norvégien pour les réfugiés. Les autorités locales accusent ces organisations d'installer des migrants d'origine africaine, je cite, visant à modifier la composition démographique du pays. Fin de citation. Ils ont dénoncé avec force l'insécurité et la montée en puissance des gangs. Plusieurs milliers de manifestants en Haïti, dans la capitale Port-au-Prince, pendant ces premières heures de la matinée. Commerce et écoles fermées, les manifestants se sont dirigés vers les locaux du Conseil présidentiel de transition avant d'être dispersés par la police. C'est le plus grand coup de filet dans le domaine de la pédopornographie depuis la création d'Interpol, l'agence européenne de coordination policière, une vaste plateforme de streaming montrant des abus sexuels sur des mineurs, a été démantelée. Elle comptait 1,8 million d'utilisateurs dans le monde. Anastasia Becchio.
L'enquête a été menée par la police allemande et soutenue par les autorités de 38 pays sous la coordination d'Europol en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Colombie ou en Australie. Le directeur adjoint de la police criminelle bavaroise a évoqué en conférence de presse des actes d'abus sexuels terribles, imaginables et malheureusement inimaginables, commis sur des enfants, de très jeunes enfants, voire des bébés, et mis à disposition sur des vidéos avec une très bonne qualité d'image. La plateforme en question, Kidflix, est présentée comme l'une des plus populaires auprès des pédophiles. Elle a été créée par des cybercriminels en 2021, selon Europol. L'enquête a débuté un an plus tard. Les utilisateurs réglaient leur inscription en crypto-monnaie, moyen de paiement censé garantir l'anonymat. Chaque heure, en moyenne, plus de 3 nouvelles vidéos étaient téléchargées sur la plateforme. Les opérations de police ont permis d'identifier près de 1400 suspects. 79 personnes ont été arrêtées, dont des Allemands et des Britanniques. Parmi eux, certains n'ont pas fait que visionner des vidéos, ils ont aussi abusé d'enfants. Selon un communiqué d'Europol, 39 mineurs ont été placés sous protection. L'enquête va se poursuivre. L'exploitant du site n'a pas encore été identifié.
Anastasia Becchio. D'un mot de football pour finir, le FC Barcelone a battu l'Atlético de Madrid ce mercredi soir. Le club part en finale de la Coupe du Roi. Il affrontera son éternel rival, le Real Madrid. Ce sera le 26 avril à Séville. En France, ce sera Reims qui ira affronter le PSG en finale de la Coupe de France. Le club a renversé Cannes. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité dans 50 minutes.